BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous en ce lundi 15 avril 2024. Vous avez choisi BFM Business. Vous faites bien, sincèrement. On va passer cette soirée ensemble, 20h, 21h30. Du lundi au jeudi, on est là en direct, radio, télé, les replays, les podcasts après qui sont à votre disposition. Bienvenue dans ces 90 minutes de tech, bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Avec au sommaire, en ce début de semaine, eh bien on va revenir sur Apple qui vit un vrai trou d'air en ce moment. Les ventes d'iPhone se sont effondrées. Et même Samsung est passé devant Apple, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. On parlera aussi d'un gadget dont on a beaucoup évoqué les mérites il y a quelques mois dans Tech & Co. Ça a été l'une des stars du CES. Ça s'appelle les iPin. Le seul problème, c'est que ça ne marche pas. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis, à J-100 des JO et de Paris 2024, on fera un focus sur une startup très intéressante qui s'appelle Hypercut et qui a mis en place un sac de frappe pour les boxeurs qui est connecté. À quoi ça sert? Vous saurez tout à l'heure. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ensemble. Un grand merci d'être là. Bonnes vacances à vous si vous êtes en train d'en profiter. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne.
Tech & Co, la quotidienne. Le débrief de la tech.
On débrief ensemble l'actu tech, comme chaque soir. Merci en tous les cas encore une fois d'être là. Avec ce soir sur le plateau de Tech & Co pour commenter l'actu, nous avons Clément David. Salut Clément.
Salut.
Bienvenue. Las Vegas. Tu vas nous raconter dans quelques instants. Tu vas être obligé, mais tout. Parce que Google Cloud, c'est sympa, mais après, il y a tout le reste. Qu'est-ce qu'a fait Clément David le soir à Las Vegas?
Je vais te raconter ce que j'ai pas fait, surtout.
Vous le saurez juste après la pub. Non, on va pas faire ça comme ça. À ses côtés, il est beaucoup plus sage.
Ouais.
Enfin, je pense.
Je peux te raconter les soirées d'Aix-en-Provence, mais il y a moins de cloud et moins de...
Il n'y a pas encore les cigales.
Et moins de soirées. Non, il n'y a pas encore les cigales.
Encore réveillé.
Frédéric Bianchi. Surtout pas aujourd'hui.
Journaliste à BFM Business. Et en face de vous, messieurs, c'est Jérôme Marin qui est là. Salut Jérôme.
Salut François.
Ravi de t'accueillir dans Tech & Co. Un vrai expert de la tech aussi, fondateur de la newsletter Café Tech. Voilà, une newsletter à la pointe de la tech, c'est le cas de le dire.
Merci.
Alors, c'est payant.
Non, c'est gratuit.
C'est gratuit?
Oh, bah oui.
Qui c'est qui m'avait dit que c'était payant? Et tu sais quoi? En fait, je l'ai lu et je me suis dit, c'est tellement bien que ça doit être payant.
Exactement,
en fait, c'est gratuit.
Ça doit être ça, ouais.
Donc, si vous voulez vous abonner à cette newsletter Café Tech, ça va, je m'en suis bien sorti.
C'est franchement.
Je suis retombé sur mes pattes.
Un vrai professionnel. On dirait que c'est ton métier.
Ouais, enfin, des fois, on est quand même un peu maladroit. Dans l'actu, on va parler d'Apple tout à l'heure avec trois sujets intéressants concernant Apple. Les ventes qui s'effondrent, les ventes d'iPhone qui s'effondrent. Quand on sait que c'est la vache à lait d'Apple, c'est pas bon signe. Apple qui commence petit à petit à distiller quelques informations. Alors tout ça, c'est des rumeurs concernant iOS 18 et Apple miserait beaucoup sur l'intelligence artificielle sur le nouvel iPhone 16. On va en parler. Et puis Apple qui veut accélérer aussi au Vietnam. Vous le savez, dans cette volonté de diversifier son industrie, il y a la Chine, bien sûr, mais petit à petit, il faut que les iPhones soient fabriqués en Inde. C'est le cas de le dire. C'est le cas d'en parler puisque ça a été l'un des sujets de la semaine dernière de Tech & Co, mais aussi au Vietnam maintenant. Mais pour débuter, donc, un mot quand même, Clément, tu vas pas passer à côté, ça va, t'es pas trop fatigué, t'as l'air bien.
Non, j'ai pris le soleil une journée.
Rappelons que tu étais avec nous la semaine dernière.
Mardi dernier, je sais plus.
Je sais plus si c'était mardi ou mercredi.
C'était mardi, la keynote était le matin, mardi matin là-bas, et donc mardi soir ici.
Voilà, tu étais à Las Vegas pour le grand rendez-vous cloud de Google, Google Next.
Google Next.
Voilà, merci pour cette vidéo, c'était très sympa.
C'était top.
Comment ça s'est passé? C'était cool alors, Google à Las Vegas?
Déjà moi, première fois à Las Vegas. Avant Google, il faisait à San Francisco. Et il se trouve que la ville a les problèmes qu'on connaît de sécurité, etc., etc. Donc en fait, maintenant ils ont migré vers Las Vegas. Je vais te dire, vrai truc, on m'a invité jeudi soir à l'UFC 300. Qui est, tu sais, le grand événement de sport de combat de l'année, etc.
Ouais, ouais.
Et je repartais, et c'était samedi soir, on m'a invité jeudi soir en me disant « Ah, si tu es dispo samedi soir, voilà des places. » Je repartais le vendredi matin. J'ai vraiment hésité à décaler mon avion, il y avait Tech & Co le lundi soir. J'ai dit non, je...
Oh, c'est pas vrai. T'as préféré Tech & Co qu'à l'UFC?
Ce que je dis en plateau, oui, c'est pour ça que j'ai préféré.
Ah ouais. D'accord.
Pour que Léa soit...
C'est moins violent en général.
C'est... Fred n'est pas là, mais quand c'est Fred Simotel...
Alors, on ne va pas revenir sur toutes les annonces que tu
as pu
commenter.
La mais... tendance un peu globale.
Voilà, comment... IA, bien évidemment, ouais. etc. etc.
Il y a trois trucs à retenir. La première chose, c'est que la compétition entre copilotes et entre les outils Google,
Gemini va être
féroce. Premier truc, ça se rend pour coup pour coup en termes d'annonce.
Bien sûr.
La deuxième, c'est que Action, le processeur qui a été présenté de Google, c'était, moi, je le savais pas en amont, c'est quand même une chouette innovation. Ça veut dire, on va parler beaucoup de puces encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la concurrence s'intensifie, ça veut dire que chacun cherche des solutions pour être le moins dépendant possible de Nvidia notamment.
Chacun veut fabriquer sa puce.
C'est fou, hein, ça va être surtension sur le marché. Et puis dernier truc, c'est vrai que dans les allées entre guillemets, les discussions sur VMware, alors si on n'est pas dans le cloud, on n'a pas suivi, mais qui fournissait énormément d'entreprises et dont les tarifs après le rachat par Broadcom ont été très très violemment multipliés par entre 4 et 11 selon à qui vous parlez, et on leur a dit un mois avant avec et si vous n'êtes pas content, vous prenez la porte. C'est des discussions qui inquiètent tous les dirigeants tech des entreprises françaises comme étrangères. C'était le troisième gros sujet. C'est pas un sujet Google, mais Google, AWS et Microsoft sont sur le sujet parce qu'évidemment, ça impacte leurs propres clients.
Je me permets de rajouter quelque chose. Je pense que ce qui était intéressant avec cette conférence, c'est qu'elle a beaucoup impressionné en fait. Beaucoup d'analystes. Rappelez-vous, il y a un an et demi, quand ChatGPT est arrivé, on disait, ah là là, Google, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être dépassés, ils ont pris du retard sur Microsoft.
Et cette année. Ils ont mis un an à encaisser le coup, hein.
Ils ont mis quelques mois, on va dire. Mais là, vraiment, cette conférence a été très bien accueillie.
Ouais.
Et on a l'impression que Google, et ça y est, a mis la machine en route.
Allez.
Et que voilà, maintenant ils sont prêts à rivaliser et que finalement ça va pas être tout du Microsoft, tout du OpenAI et qu'il y a Google et qu'il faut pas mettre Google de côté en fait.
Ce qui a été très dur pour eux, c'est qu'ils étaient en avance ou au moins aussi bien sur le produit large et qu'ils ont été dépassés en termes de com et qu'en interne ça a été vécu comme une grosse injustice en disant nous on a essayé de faire les choses bien, de faire un truc plus sécur, moins tape à l'œil, etc. Et résultat, on a tiré après et personne se rend compte qu'en fait on est largement des leaders sur le sujet. Ça commence à se rééquilibrer un peu.
Ok, voilà, jackpot, t'en as fait quelques-uns ou pas?
Écoute, j'ai même
T'as pas mis une pièce dans une machine à sous?
J'ai pas joué, je me suis dit faut le faire, j'avais pas le temps. Et alors que même au bar, tu sais, tu peux jouer des trucs. Ouais. Et à un moment, je suis parti, je me suis dit j'ai même pas joué un centime, quoi. Enfin,
bon. Il est trop sérieux, ce garçon.
Boulot.
Tu parles. J'aurais bien voulu être une petite souris, tiens, avec Clément. Allez, on attaque l'actu. Maintenant, on le disait, Apple qui est voilà sous le feu des projecteurs et pas forcément pour des bonnes choses en ce moment. Entre le DMA qui complexifie les choses, les amendes à droite à gauche, même le gouvernement américain qui attaque en justice Apple concernant des abus de position dominante. Cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est les chiffres de vente de l'iPhone qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que autant le dernier trimestre 2023 avait été plutôt bon, hein,
très bon.
Mais là, le premier trimestre, Samsung est repassé devant Apple. Et même en Chine, c'est pas bon. En Chine, je crois que Apple a perdu je sais pas combien de places.
Surtout en Chine.
Il y a même des acteurs qu'on ne connaît pas, comme Transsion. Je sais pas si vous connaissez Transsion.
Très bien.
Hein? Alors moi, pourtant, Dieu sait si je suis dans le sérail depuis un moment. Hein. Je n'avais jamais entendu parler de Transsion.
En Afrique, principalement.
Ils sont en Afrique. C'est une marque chinoise.
Ils attaquent l'Europe via, je crois, la République tchèque ou l'Europe de l'Est. Mais pour le moment, c'est une marque qui est présente.
C'est même un groupe en Afrique
via plusieurs marques.
La marque n'existe pas. C'est un groupe.
Oui.
Ils ont trois marques différentes, en fait. Mais Transsion, c'est pas une marque, en fait. C'est juste le groupe.
C'est ça. Ouais. Apple, la débâcle la plus totale. Est-ce qu'on peut essayer d'analyser tout ça, Jérôme?
Déjà, je pense qu'il faut nuancer les chiffres parce que là, on parle d'exemplaires qui sont livrés, pas qui sont vendus. C'est-à-dire les nombres d'iPhone qu'Apple envoie aux distributeurs et pas le nombre d'iPhone qui sont vendus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au quatrième trimestre 2023, Apple a envoyé beaucoup d'iPhone, plus 12% par rapport à 2022.
D'accord.
Et ils en ont envoyé trop, en fait.
Et donc les là, chiffres, ils payent justement.
Voilà, il y a un effet de rattrapage, en fait. Les chiffres de fin 2023 n'étaient pas aussi bons que ça, en fait. Et forcément, comme les distributeurs se retrouvent avec un paquet d'iPhone dans les stocks, eh bien, ils en achètent moins. Et c'est notamment en Chine. En Chine, il y a eu moins 40% sur les livraisons d'iPhone en janvier. Janvier, c'est un gros mois en Chine parce qu'il y a le nouvel an chinois. Donc ça fait moins 40%. Donc forcément, ça a un impact sur les chiffres du trimestre. Mais globalement, il y a quand même une tendance, notamment en Chine. Donc déjà, le marché chinois, c'est un très gros marché, c'est le premier marché mondial sur les smartphones. Il reste sur 2 années très compliquées sur les ventes en Chine. Ça commence à repartir. Le problème d'Apple, c'est que Huawei est revenu. Huawei est arrivé avec son nouveau smartphone, on en parlait tout à l'heure en coulisses, son premier smartphone 5G depuis 4 ans.
Le P60 et le P60 Pro. Voilà.
Et qui est un succès en fait en Chine. Et beaucoup de consommateurs chinois qui étaient chez Huawei, qui sont pas chez Apple, retournent chez Huawei, notamment parce qu'il y a du patriotisme qui joue beaucoup dans ces affaires-là.
Le patriotisme a son mot à dire là-dedans, parce que finalement Apple, quand t'es entré un peu dans la spirale, bon voilà, c'est compliqué d'en sortir.
Ouais, mais
Chine, c'est un peu différent, parce qu'en plus il est fabriqué en Chine ce téléphone, donc il pourrait très bien se dire c'est une boîte américaine, mais ça fait travailler des centaines de milliers de compatriotes.
Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'Apple n'a pas grande difficulté avec le gouvernement chinois. Mais là, le côté le nouveau Huawei, c'est qu'il y a une avancée technologique majeure, c'est que la puce a été gravée en Chine. Et donc, il y a vraiment un vrai sentiment de fierté et de revanche, en fait. De revanche sur
Washington. Du vrai made in China.
Ah là, c'est fabriqué et conçu en Chine, en fait. Ce qui n'est pas l'Apple, en fait. Ce qui n'est pas l'iPhone.
C'est dingue. Et ce P60 Pro, alors, vous n'en verrez pas l'ombre ici en France, parce qu'il n'est même pas commercialisé, hein, étant donné qu'il n'a pas les services Google. À partir de là, un Android sans les services Google, ça devient compliqué. Mais il y a eu des tests qui ont été faits. C'est l'un des meilleurs photophones du moment. Il enterre les derniers iPhone 15 Pro, enfin tous les téléphones, quoi. C'est incroyable. Clément, sur ce sujet, Apple,
ouais,
iPhone.
C'est intéressant parce qu'en fait, on se voit se dessiner, et on en discutera pour Tesla, des tensions Amérique-Chine qui reviennent, qui étaient très à la mode il y a 4-5 ans, qui là redeviennent des sujets importants, notamment en termes de concurrence, parce qu'on se demande si Trump va revenir et si ça va mettre le feu aux poudres, etc., etc. Donc tout le monde est en train de placer ses pions pour voir comment est-ce qu'on réduit sa dépendance, comment est-ce qu'on se positionne sur le marché du copain, etc. Dans ce contexte-là, voir qu'en effet, les marques chinoises sont des vrais concurrents et reprennent des parts de marché, c'est inquiétant, surtout que c'est exactement le même scénario que ce qu'on a décrit sur la voiture, c'est-à-dire que, et c'est ce que tu disais là avec le téléphone Huawei, c'est que ils font des très bons produits. Tu vois, là, il y a 2 secondes, on disait Made in China. Quand moi j'étais ado ou quand j'étais petit,
quand on disait Made in China,
c'était ton jouet du McDo, tu vois.
Ouais,
ton jouet du McDo, il était Made in China. Là, ce qu'on voit arriver pour les voitures électriques et qu'on voit arriver pour les smartphones, qu'on savait déjà pour Huawei, etc., mais qui se confirme, c'est que ils font du très haut de gamme, beaucoup moins cher. Compliqué.
Ouais, c'est clair.
Non, Fred. Moi je pense qu'Apple paye aussi un peu son manque d'innovation depuis quelques années. On a tout le temps le même produit, qui est de très bonne qualité, qui est sans doute plus performant que de la concurrence, mais qui est aussi quand même beaucoup plus cher.
Difficile.
Samsung
de
arrive avec un S24, alors qui est à peu près dans l'entrée de gamme coordonnée sur les prix, mais après il y a quand même un vrai décalage qui se fait. Samsung, il communique énormément. On peut pas sortir dans la rue, écouter un podcast sans avoir des pubs Samsung. Alors, il communique beaucoup sur les smartphones pliants, mais malgré tout, on est dans une ambiance Samsung en ce
moment. Et puis je sais pas si tu as remarqué, il communique aussi sur l'AI. C'est le Samsung Galaxy S24 AI.
Voilà.
Ça fait partie du nom du modèle du téléphone.
Je pense pas que ce soit encore une killer app aujourd'hui, l'AI. C'est pas ça qui va nous faire acheter un smartphone, mais on se dit,
ouais,
Samsung, ils sont dans le client, Samsung, ils sont dans l'AI, Samsung, ils sont un peu moins chers. Voilà. Donc, peut-être que sur les marchés, alors, j'ai pas les parts de marché sur les marchés occidentaux, mais c'est vrai que je crois que Samsung a progressé en Chine. Donc, on se retrouve finalement avec un iPhone qui fait bien le job, mais qui est toujours le même et qui crée plus d'excitation. D'autant que il y a la concurrence chinoise qui montre des muscles. Un Huawei qui arrive, qui a, c'est un petit peu l'événement de l'année quand même, le P60 avec la puce gravée Made in China. C'est, on a parlé un peu que de ça cette année.
Oui, c'est vrai.
Et finalement, Apple,
c'est un mystère d'ailleurs.
Qu'est-ce
pour
qu'ils ont à proposer
pour les ingénieurs.
Ils n'ont pas l'intelligence artificielle qui arrivera peut-être avec l'iOS 18 en fin d'année, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Ils sont toujours plus chers, ils n'ont pas de clients. Enfin voilà, donc, et puis ils proposent un peu toujours le même form factor depuis quelques années.
Après.
Donc il y a peut-être un petit effet. Et si on essaye autre chose ?
Le marché est pas le marché du téléphone est pas un marché de grande innovation de rupture en général. C'est-à-dire que, en gros, à part sortir un plus bel appareil photo, oui, de temps en temps, ça se plie. Bon, là, il y a les iPins. Bon, c'est peut-être pas une si bonne idée d'innover, mais au global.
Pour l'iPin, c'est même plié, j'ai envie de dire. Mais bon, on va en parler dans un instant.
Propre. Et... joli.
Je vous l'offre.
Mais le truc, c'est après, faut pas imaginer que Huawei ou un quelconque concurrent comme Samsung apporte beaucoup plus en termes d'innovation aujourd'hui que les iPhones. Hein. C'est un marché où on se ferme.
Je pense qu'il ne faut pas trop surréagir sur les chiffres du premier trimestre. Oui, 2023, c'est la première année où Apple était numéro un du marché devant Samsung. Samsung était premier depuis, je crois, 2012. Apple est passé devant. En fait, déjà, le marché est baissier, ça, c'est clair. Ça commence à repartir. Donc, il faut attendre. Là, je pense qu'il y a un effet de rattrapage par rapport au quatrième trimestre.
Oui. Et puis, n'oublions pas aussi, excuse-moi, je te coupe, que le Samsung S24 a été annoncé fin janvier, début février. Donc, en fait, il bénéficie de l'attrait de la nouveauté pour le premier trimestre. Et Samsung, et là, il a grappillé des parts de marché.
Chaque année, il sort en début d'année.
Année, avec l'intelligence artificielle, j'ai l'impression qu'ils tirent un peu leur épingle du jeu. Parce qu'il raconte une histoire.
Il avait une histoire nouvelle à raconter.
Parce que, excusez-moi, entre le 14 et le 15, quelle histoire Apple a raconté? Les téléphones sont quasiment les mêmes.
Mais si tu regardes les chiffres, Samsung, ils sont en baisse aussi. Hein. Samsung, ils sont à moins 1% sur le trimestre. Ouais. Apple est à moins 10%.
Après, on est dans une période de crise économique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est.
Non, mais le marché monte de 8. Comment? En fait, le marché monte de 8. En fait, aujourd'hui, qui gagne des parts de marché? C'est les acteurs chinois. Ouais. C'est Oppo, c'est Xiaomi.
Mais qui ne sont pas sur le même segment de prix non plus.
Ah, ben ils commencent à quand même à augmenter.
Ça augmente, mais c'est un peu l'histoire de Samsung, tu sais, qui commençait à 500 euros et puis qui un jour. Mais là où je te rejoins, c'est que les Chinois deviennent de plus en plus chinois. Ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'on est dans un marché globalement où les biens chers en ce moment, les gens n'ont pas d'argent. Quoi.
Mais en même temps, là où Apple est un peu sauvé, entre guillemets, c'est que le prix moyen de vente, donc le prix moyen de l'iPhone, augmente. Parce que les iPhones sont toujours plus chers et que les consommateurs achètent toujours les iPhones de plus en plus chers, même si le marché est baissier.
Mais on est d'accord que ces mauvais chiffres, c'est quand même assez rare pour Apple.
Oui, bien sûr. Mais c'est rare, mais ça fait deux ans.
Ouais.
Ça fait depuis 2021. 2021, c'est le pic sur les smartphones.
Mais ça va être intéressant de voir comment Apple réagit. Et on attend avec beaucoup d'impatience la WWDC, hein, cette conférence des développeurs.
L'IA, justement.
Sur l'IA. Espérons qu'Apple puisse reprendre la main. Enfin, espérons. En tout cas, on va les écouter avec beaucoup d'attention pour voir comment ils vont s'en sortir de tout cela. Puisqu'on évoque cette WWDC... Visiblement, on aura plus d'informations concernant iOS 18, qui sera donc disponible à la rentrée prochaine, qui arrivera évidemment sur les nouveaux iPhones, probablement sans doute à 99,9% des iPhone 16, et qui arriveront aussi sur les précédents modèles. Hein. Et cette iOS 18 devrait faire la part belle à l'intelligence artificielle. Ça, on le sait depuis quelques mois. Ce qu'on murmure et la rumeur en fait qui circule actuellement, des rumeurs qui sont toujours bien orchestrées par les espions d'Apple qui savent tout avant tout le monde, il y aurait en fait de l'intelligence artificielle dans le téléphone avec un processeur qui serait adapté pour, hein, c'est ça Jérôme?
Ouais, alors en fait, on parlait tout à l'heure du Samsung Galaxy S24, ils font de l'IA, ce qu'on a dit, on device, c'est-à-dire on n'est pas besoin de connecter sur le cloud, on est directement sur le téléphone, donc on peut le faire hors connexion et ça coûte moins cher aussi parce qu'on n'a pas besoin de payer un fournisseur de cloud. Donc on sait qu'Apple travaille sur ça et tous les fabricants de smartphones travaillent sur ça, Google le fait déjà avec ses pixels. Donc on sait aussi qu'Apple va essayer de trouver une IA qui fonctionne au niveau du système d'exploitation. Et aujourd'hui c'est important parce que toutes les fonctionnalités d'IA qu'on a, notamment sur Samsung, c'est sur les applications. Il n'y a pas d'IA qui fonctionne au niveau du système d'exploitation qui permet de dire retrouve-moi tel truc tel. Voilà. Donc ça va être le gros focus d'Apple. Ils vont mettre beaucoup et ils sont très bons pour ça généralement, pour avoir des softwares qui marchent au niveau d'IA parce qu'ils contrôlent l'OS et ils contrôlent le hardware, donc ils sont plutôt bons sur ça. La question qui va être intéressante aussi, c'est de voir qui alimente cette IA. Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait qu'ils ont commencé à parler avec Google, avec OpenAI, parce que leurs efforts pour développer des modèles de langage sont un peu en retard. Donc à voir aussi comment ça va s'articuler entre du Google, du Apple, de l'OpenAI et d'autres choses. Donc on ne sait pas trop, on va voir comment ça se passe tout ça à la conférence en juin.
Ça va être intéressant. Clément, Fred, là-dessus?
Oui, Google a fait a priori, c'est ce que dit la rumeur depuis quelques mois, sauf que Google a dit que son IA en local fonctionnait avec un certain niveau de mémoire que ne proposent pas aujourd'hui les iPhones, donc il faudra voir comment ça fonctionne. Mais c'est ce qu'on dit souvent quand on revient sur Apple et l'IA. Apple être obligé de quémander à Google ses services parce que leur modèle de langage n'est pas développé, alors que ça fait quand même plus d'une décennie qu'ils proposent un assistant personnel qui aurait pu être la première pierre pour développer une IA. Voilà. Je me dis qu'Apple a quand même pas mal de retard sur le sujet. Et puis après, ça dépendra aussi de l'application, de l'applicatif, parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est très théorique, mais il va falloir montrer un produit des consommateurs et leur dire voilà,
de l'IA qui parle à tout le monde.
Avec l'IA, et là je pense que c'est là qu'Apple a une carte à jouer, eh bien voilà ce que vous pourrez faire. Ce sont des applications très concrètes plutôt que simplement un service théorique d'IA. Bon, ça tout le monde le fait aujourd'hui.
Ouais, mais c'est marrant parce que tu parlais de l'assistant vocal. S'il y a une fonctionnalité sur laquelle les gens attendent enfin que l'IA vienne régler les limites qui sont quand même criantes de l'assistant vocal, mais limites que tu vas avoir chez Apple, mais que tu vas avoir chez tous les autres concurrents, c'est quand même l'assistant vocal. C'est-à-dire que ce que peut te faire un assistant vocal quand c'est pas directement une demande qui est liée à une application, c'est pas grand-chose à part te dire sur Google j'ai trouvé telle info. Donc la première application.
Et nous réveiller le matin aussi, ce serait très pratique pour le réveil.
Voilà, c'est. Mets-moi la minuterie pour les œufs durs, tu vois. Voilà. Mais à part ça, l'assistant vocal, c'est quand même aujourd'hui très limité en termes d'intelligence. En fait, c'est pas une intelligence artificielle, donc ça fait un cas d'usage important.
Mais on est d'accord que Siri, c'est il est abruti, quoi. Enfin, je veux dire, excusez-moi.
C'est une personne.
Non, mais on est d'accord. C'est
la diffamation, ça, François.
Non, en fait, la première. Non. Mais quand on compare ça à l'IA générative de ChatGPT avec qui on pouvait avoir des conversations, des choses comme ça, quand vous pose, enfin, quand je parle de Siri, mais c'est pareil.
Siri, c'est quelle année?
Google Home.
2011.
C'est comme Google Home ou c'est comme Alexa.
Le problème, c'est pas le niveau, c'est le manque d'évolution qu'il y a eu. Entre le
et
moment
puis,
où tu l'as sorti.
Forcément, tu fais une analogie.
C'est pour ça que je dis, c'est ce que les gens attendent en numéro un. Et il y a un deuxième truc aussi. Il ne faut pas oublier que pourquoi Microsoft et Google bombardent comme des tarés sur l'IA. Parce qu'en fait, derrière, ils vont le vendre. Ils vont le vendre cher avec des très bons produits. Ils ont déjà les clients et ça va leur rapporter des milliards. Aujourd'hui, Apple, s'ils mettent autant de ronds sur l'IA que leurs concurrents qui, eux, avaient pris le marché du cloud, et ben, à part faire un meilleur téléphone et un meilleur OS qui leur permet de garder un peu d'avance sur le marché du téléphone, ils vont le vendre à personne. Donc en fait, les moyens qu'ils peuvent mettre sont beaucoup plus limités que leurs concurrents qui, eux, ont un marché où de toute façon, ils vont pouvoir se faire de la thune derrière.
Il n'y a pas qu'une histoire de moyens, il y a une histoire. L'IA chez Apple, ça n'a jamais été très très bien développé pour une raison simple, c'est que les chercheurs en IA, ils adorent faire de la recherche et de collaborer avec d'autres. Chez Apple, ça n'existe pas. Chez Apple, c'est souvent fermé. Et donc, pendant des années, ils ont eu beaucoup de mal à attirer des chercheurs en IA parce que les chercheurs en IA voulaient contribuer, pas que travailler pour une boîte américaine, mais aussi contribuer à la recherche scientifique en général. Ils ont dû changer d'ailleurs de politique, mais ça reste assez fermé. Donc, ils ont toujours eu du mal sur l'IA et donc ils sont en retard. Et sur l'IA générative, très clairement, ils sont en retard. Ils ont pris le train après. Et là, maintenant, ils sont en train d'investir beaucoup, mais ça prend du temps. Et pour être très performant par rapport à un Gemini ou un ChatGPT, eh bien, il y a encore du chemin à faire.
Mais c'est vrai qu'une culture de l'open source, quand tu regardes chez Google, par exemple, nous, une techno Shpadok qu'on utilise qui s'appelle Kubernetes, a été développée par Google puis mise en open source. N'importe quel chercheur rêve de faire ça, à savoir un produit qui est mondialement connu et utilisé. Chez Apple, on te dit tu vas bosser sur la fonctionnalité. Point. C'est moins sexy.
Juste pour rappeler, Transformer, donc la technologie qui permet ChatGPT, elle a été conçue par Google.
Bien sûr.
Donc ChatGPT n'existe pas.
C'est d'autant
pas
plus rageant pour Google,
Google
d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est clair.
Super fier.
Dernier petit sujet, chapitre lié à Apple. Après, on passera à autre chose, aux baisses de vente de Tesla. On passera à Leigh Hyperion aussi, qui visiblement est un four monumental, puisque les premiers journalistes américains l'ont testé. C'est pas joli, joli. Avant de parler tout ça, Apple, qui, j'ai l'impression, a une obsession. C'est de sortir du joug industriel de la Chine. Parce que la complexité géopolitique fait que il faut plus mettre ses œufs dans le même panier aujourd'hui. On ne sait pas ce que demain peut réserver Apple. Et si demain les tensions sont à leur paroxysme entre la Chine et les États-Unis, Apple risque d'en pâtir. Et donc, on le voit, je crois qu'il y a eu 10% des iPhones qui ont été fabriqués en Inde ces derniers mois. Nouveau pays, terre d'accueil de l'industrie d'Apple, ça pourrait être le Vietnam, Jérôme.
Oui, et Apple produit déjà quelques iPads au Vietnam.
Je crois des AirPods aussi.
C'est possible. Le Vietnam a un avantage, c'est que c'est moins cher que la Chine aussi. La Chine, il y a le côté géopolitique, mais il y a le côté aussi que les salaires commencent à être plus élevés qu'ailleurs, donc il y a ce côté-là. Et ce qui est marrant, c'est que Tim Cook était en Chine il y a quelques semaines, et il a dit, l'une des phrases qu'il a dites, c'est que la Chine, sans la Chine, Apple n'existerait pas en gros. Il n'y aurait pas d'iPhone sans la Chine, mais en fait, il y a un peu un double discours, parce qu'il y a le côté...
C'est vrai, c'est le cas, mais on va essayer de que ce soit plus le cas, quoi.
Et donc le Vietnam, c'est le prochain à voir ensuite, parce que c'est toujours très complexe en fait de déplacer des usines. C'est une chaîne logistique énorme. qui fait que, par exemple, en Inde, ils ont mis des années avant de perfectionner tout ça.
Oui, bah, il y a deux intérêts pour le Vietnam. Effectivement, c'est la dimension bah, en Chine, bah, le pouvoir d'achat, il y a quand même une classe moyenne qui a un très fort pouvoir d'achat. Il faut quand même payer les gens dans ces usines. Bah, pour Apple, ça coûte cher. Alors, on dit Apple, mais c'est surtout ses sous-traitants, c'est Foxconn. Je crois qu'Apple a investi, enfin, en tout cas, le chiffre qu'a donné Apple, c'était 16 milliards de dollars investis depuis 2019 au Vietnam. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, surtout, le Vietnam, c'est pas qu'un producteur, c'est aussi un consommateur. Et il y a un marché qui se développe fortement au Vietnam. Et c'est en tout cas là-dessus que va Apple. Je crois qu'ils ont ouvert leur store au Vietnam. Alors, il n'y a pas encore d'Apple Store, mais on peut commander des produits. Donc, c'est à la fois eh bien, des ressources de production. Et c'est aussi demain un marché qui peut être important. Hein. C'est plus de 100 millions d'habitants au Vietnam.
Ouais. Après, c'est aujourd'hui, il va y avoir la capacité d'Apple à produire des biens haut de gamme sur ces marchés-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est produit en
Inde,
Vietnam, ce qui
est
produit
en Inde, gamme, hein.
C'est l'iPhone 15, je crois, et pas le 15 Pro. Et
je crois qu'ils avaient commencé par le SE, etc. Ouais. Donc, il y a une question de est-ce que tu vas avoir la chaîne de sous-traitance qui va pouvoir. Parce que,
Oui, mais ils vont y arriver, ça prendra du temps, mais ils y arriveront, non?
C'est
Foxconn.
C'est un énorme.
Là, en fait, il délègue tout à Foxconn. Hein, en fait.
Et là, cette année, par exemple, c'est la première fois.
C'est le problème de Foxconn.
Attends, quand on dit il délègue tout, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur eux, mais en revanche, la chaîne de qualité, les contrôles que tu fais, etc., la transmission des connaissances. C'est l'élite mondiale de la gestion des fournisseurs, c'est Toyota. Quand tu regardes comment Toyota gère ses fournisseurs, qui sont des fournisseurs exclusifs, avec lesquels il y a des chartes de qualité, avec lesquels il y a des contrôles, des accords secrets qui sont passés sur on file les trucs avant, mais ça ne doit pas sortir. Un bon fournisseur, une relation pour la créer et le mettre au niveau, en l'occurrence, c'est parce qu'ils vont devoir les mettre au niveau, c'est pas si simple. C'est pas qu'on délègue qui on veut, tu vois.
Bon. La suite, ça va être intéressant de voir comment tout ça petit à petit va changer un peu le partage de l'industrie d'Apple. On parle aussi des États-Unis. Hein. Est-ce que les US pourraient demain
Ils ont essayé que de construire, ouais. de fabriquer des Mac aux États-Unis.
Mais ça coûte très très cher.
Ils ont arrêté en fait.
Ouais, ils ont arrêté.
Ça coûte cher et surtout il y a pas les compétences. Ouais, en fait, c'est ça le vrai problème.
Mais idem pour Foxconn aux États-Unis, Foxconn au Brésil. Ouais. Voilà, quand on n'est pas dans l'écosystème.
Mais je crois qu'au Brésil, Apple fabrique des iPads, hein, des choses comme ça ou même des iPhones. Hein. Ils ont une usine Foxconn.
Enfin, en tout cas, ils avaient des ambitions de
pour
dizaines
des fiscales,
de milliers
je crois,
d'embauches de salariés et finalement elles se sont avérées décevantes.
Messieurs, on revient dans un instant. Tesla, là aussi on a parlé du gadin d'Apple, le gadin de Tesla.
Plus inquiétant je pense.
D'ailleurs, Apple voudrait, en tout cas c'est la rumeur, voudrait se séparer de 10% de ses effectifs.
Tesla.
Pardon, j'ai dit quoi, Apple ?
Apple.
Non, pardon,
ouais.
Tesla.
Mais qui lance des rumeurs comme ça.
Moi, tout ça pour que les gens restent après. Apple va fermer, les amis. Pour en savoir plus, vous restez avec nous, c'est après l'Info Éco. Vous ne me croyez pas, vous avez raison. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir pour commenter l'actu, Frédéric Bianchi, que vous connaissez bien sûr, journaliste à BFM Business et à BFMTV.com. À ses côtés, Clément David, le roi du cloud chez Paddock. Et en face de lui, c'est Jérôme Marin. Jérôme, dont la newsletter Café Tech est totalement gratuite. Il a changé son modèle économique pendant les infos. Et vous pouvez vous abonner, bien évidemment. On va maintenant parler de Tesla avec Aude Kersulec qui nous a rejoint. Bonsoir, Aude.
Bonsoir.
Et Aude, tu vas commenter avec nous donc ces résultats et cette rumeur qui persiste en ce moment. Tesla pourrait licencier jusqu'à 10% de ses effectifs.
Oui, un Tesla qui a communiqué sur une baisse de ses effectifs. Elon Musk aurait annoncé à ses employés une baisse de 10% des effectifs. Ça équivaut à 14 000 employés parce qu'il y a des doublons dans certaines activités. Le groupe ayant grossi rapidement dans un contexte d'opulence, comme il y a eu ces dernières années. Tout ça n'était pas forcément nécessaire. Le début d'année est tout de même beaucoup plus compliqué pour Tesla. Pour la première fois, le groupe automobile a annoncé une baisse de ses ventes au premier trimestre. Donc par rapport à 2023, une baisse de 20%, il a vendu 386 000 véhicules au premier trimestre. Ça fait depuis le début de l'année en fait que Tesla a perdu la confiance des investisseurs en bourse. Le titre chute en ce moment à moins 4,8% à Wall Street depuis le début de l'année. Donc depuis 3 mois à peine, il a perdu plus de 30%. C'est la pire chute d'ailleurs du S&P 500. Certains disent que Tesla commence maintenant à être valorisé comme une valeur du secteur automobile classique, hein, et non plus une valeur de la tech. Alors, moins 10% dans les effectifs, tout ça va permettre de préparer Tesla à une nouvelle phase de croissance, explique Elon Musk, qui place notamment beaucoup d'espoir, hein, on le sait, dans le robot taxi. Alors, Elon Musk a précisé quand même qu'il n'aimait pas licencier, que c'était une des choses qu'il détestait le plus, mais cela doit être fait, ça va permettre à Tesla d'être plus léger, d'être plus innovant, et puis il reprend ce terme cher à Steve Jobs, hungry, stay hungry. Bon, j'ai pas trouvé d'équivalent en français.
Stay hungry, oui, restons, on va dire, pugnace, affamé, hein, c'est ça. Hein. Merci beaucoup, c'était Aude Kersulek pour les commentaires. Alors, je sais pas si c'est officiel vraiment, je sais qu'Elon Musk a envoyé un mail pour dire qu'il souhaitait se séparer de 10% de ses effectifs. C'est pas anodin, hein. Et derrière tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre finalement la fin du règne d'une marque qui était hyper hype, tout le monde ne jurait qu'en Tesla, ne voyait que Tesla. Est-ce que c'est la fin un peu du pain blanc, comme on dit, pour Tesla? Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme?
Déjà, c'est pas officiel, hein. Ça n'a pas encore été officialisé de manière...
Mais bon, c'est repris de manière officielle, on va dire, c'est ça qui est
étonnant. Le mail a fuité, le mail est envoyé à l'intérieur. Ensuite, alors certes, Tesla vend moins de voitures. Cette année, il devrait vendre moins de voitures que l'an prochain, que l'année dernière, qui est une première en fait. Ça reste quand même le premier constructeur, alors premier ou deuxième, ça dépend des mois, mais le premier occidental en tout cas, le plus marquant encore. Mais la concurrence des groupes chinois est très forte, notamment en Chine. La Chine, ça reste un énorme marché pour Tesla. Les ventes baissent en Chine, le marché des voitures électriques baisse de manière globale également. Donc ils sont un peu à la croisée des chemins. C'est vrai que ça fait plusieurs années que Tesla, tout semblait réussir à Tesla, et que voilà, c'est peut-être la première fois depuis plusieurs années qu'il y a des doutes sur Tesla et sur Elon Musk.
Et voilà, et tu le disais, en plus, cette concurrence chinoise qui frappe de plein fouet Tesla, parce que aujourd'hui vous avez des voitures tout aussi belles que Tesla, tout aussi perfectionné avec de la tech, on n'a plus savoir qu'en faire, qui coûte moins cher. Les BYD, encore, on cite BYD, mais il y a plein d'autres constructeurs chinois qui font mieux pour moins cher.
Oui, alors il y a la concurrence chinoise, bien que BYD recule encore plus fortement que Tesla, hein, sur les premiers mois de l'année, en tout cas comparé à l'année dernière.
Xiaomi,
je pense que Tesla souffre aussi des conditions de marché qui sont très mauvaises. La part des ventes de voitures électriques en Europe a reculé, et a reculé d'ailleurs au niveau mondial, mais particulièrement en Europe, où les primes à la conversion ont été brutalement supprimées par l'Allemagne, quand même le premier marché européen de l'automobile. Et là-dessus, si Tesla souffre, c'est à cause de décisions politiques, finalement, et qui sont un peu paradoxales. C'est-à-dire que les premiers acheteurs, en général, ce sont ceux qui ont les moyens d'acheter, eux, ils ont bénéficié des aides. Et ceux qui arrivent maintenant, où on commence à toucher un plus large public, c'est là qu'il faudrait aider. Ce sont ceux qui ont peut-être un pouvoir d'achat automobile un peu moins grand. Et là, ils découvrent que les aides sont moins importantes, que ce soit en France, ou alors sont carrément supprimées dans certains pays comme la Norvège ou l'Allemagne. Tesla fait partie des constructeurs qui souffrent. Et puis, il y a une concurrence occidentale aussi qui arrive. Hein. Il y a Renault, il y a Volkswagen. Voilà, peut-être que les Tesla sont se distinguent un peu moins des autres. Quoi. Elles sont un peu plus banales. On commence à en voir un peu
tu veux dire par là que les concurrents rattrapent peut-être l'innovation qui leur manquait petit à petit.
On a dans chaque pays des constructeurs nationaux. En France, on a Renault. Alors même si la Mégane E-Tech, c'est pas des volumes énormes, mais malgré tout, ce sont des gens qui n'achètent pas Tesla. On a la R5 qui a été présentée. En Allemagne, ils ont Volkswagen aussi qui met l'accent sur l'électrique. Donc voilà, il y a une concurrence. Alors certes chinoise, mais aussi européenne qui arrive dans un contexte de marché qui est pas porteur parce qu'il y a des primes à la conversion qui ont été supprimées. C'est normal que Tesla recule. Et encore une fois, c'est qu'au premier trimestre, on jugera peut-être sur l'année si vraiment on est dans un trou d'air.
Clément.
Ouais. Après, ça peut pas être que politique. C'est-à-dire que il y a quand même une avalanche de mauvaises nouvelles. Quand tu regardes, par exemple, les rumeurs. Alors Reuters a dit ils arrêtent le modèle 2 qui était censé être leur modèle d'entrée de gamme.
Modèle d'entrée de gamme à 20 000 dollars.
Tu vois, et concurrencer les Chinois et permettre aux gens d'accéder au marché.
La citadine de Tesla, hein, c'est comme ça qu'on l'imaginait en tout cas. Donc c'est vrai qu'il y a la semaine dernière, Elon Musk a dit.
Il a dit ils ont menti, etc. On attend toujours de savoir.
Il n'a pas formellement démenti.
On attend toujours de savoir sur quoi ils ont menti. Bon.
Alors quelle est très attendue cette voiture.
Ils ont, ils ferment aussi leur, enfin ils ont la plus faible marge brute depuis 4 ans. Alors c'est pour ça qu'ils dégagent du monde. Ils sont à 1,70 ou un truc comme ça. Ils ont perdu, alors un peu comme de nombreuses boîtes tech, mais depuis décembre ils ont encore perdu 36%. Ils avaient une première vague de licenciements. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la tension sur le marché, c'est aussi que il se passe un truc chez Tesla. Et en fait Tesla, moi mon opinion qui est un raccourci très rapide, mais c'est que leur chemin vers le succès, pour une boîte qui, on est d'accord, est quand même difficilement profitable, etc., c'était de devenir Apple. C'est-à-dire qu'au départ, c'était Blue Ocean, on est tout seul, etc., etc. Ils savaient que la concurrence allait arriver. Je veux dire, ils ont pris un coup d'avance sur tout le monde qui était incroyable, et en termes de technologie, notamment de batterie, etc., et de connectique, et même de marketing, de marque. Mais à un moment, la suite arrive. Normal, les Chinois, les Européens. La question qui se pose, c'est est-ce que t'es devenu Apple ? C'est-à-dire, est-ce que t'es devenu tellement dominant ?
C'est pas le niveau de marge, oui.
Exactement. Est-ce que tu es tellement dominant que tu peux te permettre d'être très cher et parce que t'es devenu un méga leader de ton marché ? Le truc, c'est, quand tu regardes, le produit est pas au niveau, forcément, de ce qu'est Apple dans les smartphones. C'est-à-dire que c'est un produit qui est impressionnant, mais... En fait, les finitions sont moyennes.
Qui s'est banalisé déjà, depuis 4-5 ans, où on est à peu toujours sur le même modèle.
Oui, il y a deux trucs. C'est vrai que les finitions sont pas au niveau, alors même s'ils ont fait des progrès.
Pour moi, il y a deux trucs. Il y avait l'innovation.
Ils sont pas
au
niveau d'un Audi, par exemple, ou d'un BMW.
Une super bagnole. C'est-à-dire que c'est une super bagnole en termes de voiture électrique, en termes de, tu vois, à l'intérieur, de tableau de bord électronique, de machin. Mais en revanche, les finitions sont pas du tout au niveau du haut de gamme. C'est pas une Mercedes.
C'est quand même une sacrée claque, quoi. En termes
Mais le design, maintenant que le design commence, une claque en termes de design. Maintenant que le design commence à être connu, à avoir daté, et on arrive sur le deuxième truc, c'est quoi l'innovation que tu mets derrière qui permet de relancer le marché régulièrement ? Quand tu regardes une Tesla depuis qu'elle est sortie, tu regardes ce qui a changé, bon, l'écran est toujours là, le design est toujours là, mais t'as pas eu de nouvel effet waouh. Donc en gros, c'est un produit qui s'est banalisé et où il y a peu d'innovation dans un marché où il y a une énorme concurrence et qui justifie pas forcément son prix en termes de finition, ça commence à faire beaucoup.
Je pense qu'il y a aussi, Elon Musk s'est focalisé beaucoup sur le Cybertruck, qui est ce SUV.
On est d'accord, c'est ça leur innovation.
Et qui finalement, c'est pas forcément. Enfin, il arrive là, mais on se dit que c'est pas forcément ça qui va permettre à Tesla de passer une étape supplémentaire.
Non, c'était du marché de niche, tout ça. Ouais. Alors que, pour le coup, la Model 2, c'était vraiment le gap à passer pour toucher ce très large public que, pour le moment, on n'arrive pas à faire venir.
On l'a même vu, il y a quelques années, Tesla a augmenté les prix parce qu'il pensait que c'était... aujourd'hui, il baisse les prix maintenant, donc parce qu'il y a la concurrence. Et donc, je pense qu'il y a ce côté être entrée de gamme. Ils l'ont pas vu en fait. Ils l'ont pas vu venir que le gros du marché, peut-être, il allait se déplacer vers ce côté, vers l'entrée de gamme.
Ils se croyaient trop beau aussi. Ils se croyaient peut-être protégés.
Exactement.
À la Apple justement, où Apple se.
Ils pensaient tellement fort qu'ils pouvaient augmenter les prix sans avoir de conséquences sur la concurrence et sur leur part de marché.
Et puis en plus, comme tu le disais tout à l'heure, Jérôme, les temps changent. Il y a moins de subventions. C'est Fred qui disait ça. Il y a moins de subventions et il faut savoir aussi que Tesla aux États-Unis touche des centaines de millions de subventions parce que justement, comme ce sont des voitures électriques qui polluent moins, ils décarbonent. Enfin, c'est énorme. Mais tout ça, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Et en fait, cette manne financière va disparaître en fumée. C'est de cas de le dire. Même si cette fumée ne polluera pas, mais c'est embêtant. Et puis voilà. Et puis alors, on le sait, Elon Musk, lui. Croit au robot taxi. C'est aussi aventureux comme histoire-là.
Ça fait quand même des années qu'il en parle.
Mais là, vous avez vu ce tweet la semaine dernière, on en parlait d'ailleurs dans Tech & Co en fin de semaine. Le 8 août, il annoncera quelque chose concernant le robot taxi. Okay. Mais qu'est-ce que ça va être ? Et ce robot taxi, ça va être où ? Aux États-Unis ? Dans les grandes villes ? Est-ce que ça va être en Europe ?
On ne peut pas leur reprocher de ne pas innover et en même temps.
Mais en fait, c'est beaucoup l'effet d'annonce.
Ce robot taxi, Clément, il existe déjà aux États-Unis plus ou moins parce que c'est vrai qu'il y a le pilote assist là-bas, il est très très poussé. En Europe, il est beaucoup moins poussé parce que la réglementation
n'est pas encore là.
C'est-à-dire que peut-être que tu vas arriver à faire un truc, mais dans quelques États américains, pas tous, et sûrement pas en Europe, peut-être en Asie aussi. Donc ça va être un coût, si tu veux, qui va pas être d'une ampleur à compenser, par exemple, l'abandon d'une nouvelle Tesla 2.
Et puis le robot taxi, c'est un service. Et Tesla, c'est une marque émotionnelle. On a envie d'avoir une Tesla. On a envie de posséder cet objet-là. Moi, m'arrêter dans la rue, commander un robot taxi Tesla, ça m'est égal. Enfin, je vais pas prendre plus le Tesla que le Mercedes ou que je ne sais quoi. En revanche, acheter une Tesla, oui. Enfin, parce qu'il y a une dimension émotionnelle dans l'automobile. On disait
un peu comme l'iPhone, en fait.
L'usage va remplacer la propriété. Non, dans l'automobile, on voit qu'on a encore envie d'avoir une voiture. Et si Tesla va à fond sur le robot taxi, ils vont perdre leur puissance émotionnelle. de l'automobile.
Deux trucs rapides. Il y a souvent les boîtes, pas les boîtes américaines très installées comme Amazon, etc., mais les boîtes un peu gourous comme ça, qui sont nées les 10 dernières années, etc. Quand elles veulent licencier, elles oublient très vite que le monde n'est pas américain. Là, les syndicats en Allemagne ont déjà dit « Alors, les mecs, il y a des lois, va falloir les respecter. Ouais. » Tu sais qu'en France, quand il y a des licenciements dans la tech, Exactement, quand il y a des licenciements dans la tech, je pense à il y a un an, par exemple, chez Stripe, où quand ils avaient licencié, c'était allé partir très très vite partout dans le monde, et en France, ils avaient dit « Bon, alors, le CSE, faut qu'on discute, etc. » Tu licencies pas n'importe où, comme aux États-Unis, c'est un paramètre qu'il faut avoir en tête.
Il y a des indemnités de licenciement qui sont élevées.
Enfin, c'est pas du tout la même chose. Je suis pas sûr qu'il l'ait en tête aussi facilement. Le deuxième truc, c'est que le salut pour eux peut peut-être venir de l'Inde. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils investissent beaucoup sur ce marché. C'est un marché où ils auront pas la concurrence chinoise parce que les produits tech chinois sont très bloqués sur ce marché et que c'est difficile de les faire rentrer. Donc, il y a un moyen. C'est un pays qui a pas encore une classe moyenne très développée avec le pouvoir d'achat qu'on connaît en Chine. En revanche, ce qui s'est passé pour Apple, par exemple, c'est quand ils sont arrivés sur le marché, ils ont pris tout de suite 90% du marché du haut de gamme. Parce que, pour le coup, les gens ont acheté en masse des produits étrangers avec une très forte réputation et une très forte marque. Donc, si tu deviens tout à coup, alors c'est un coup qui ne va pas se gérer en un ou deux ans, mais si tu deviens le méga leader du marché indien, qui a une classe moyenne qui se développe au fur et à mesure, avec un cran de retard sur la Chine, et que tu n'as pas la concurrence chinoise, et que la concurrence européenne est relativement faible, ça peut relancer un peu la machine, tu ne feras pas toute ta strat dessus.
Voilà, on verra bien comment tout ça évolue. On enchaîne peut-être, il nous reste 12 minutes avant d'évoquer les PC Intel de Huawei, parce que Huawei, on le sait, est sous le joug d'interdictions technologiques importantes aux États-Unis, mais peuvent fabriquer des PC avec des processeurs Intel, c'est assez intéressant. On va en parler dans un instant. Avant d'évoquer tout ça, remontons un petit peu le temps, si vous le voulez bien. Et pendant ce CES de Las Vegas, il y avait une star invisible. Personne ne l'avait vu, mais tout le monde en parlait. Vous savez, ça arrive de temps en temps dans ces salons tech. Hein, tu connais ça bien, Fred. Tu as déjà fait le CES. Et cette année, en 2024, c'était l'AI Pin, qu'on avait déjà, dont on avait vu les démos fin d'année dernière. Ce petit appareil développé par des ex de chez Apple, je crois.
C'est ça.
Une start-up voilà, de la Silicon Valley qui s'est dit, bah tiens, on va essayer de réinventer un peu le smartphone. Et cet appareil, rappelons-le, ressemble à un gros pin, ce que vous accrochez, en fait, à votre chemise ou à votre veste, et qui réagit à votre voix et qui projette des informations sur votre main ou sur, par exemple, un support qui peut être un mur, etc. Mais il faut être prêt. Donc, souvent, les exemples qu'on voit, c'est la main comme ça qui est posée au niveau de votre torse à quelques centimètres et vous voyez des informations qui s'affichent. C'est vrai qu'on a été tous été bluffés hein, quand on a vu ce produit. On s'est dit waouh, toi pas, c'était pas le cas, Jérôme. Mais moi je me disais, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'était que une start-up ait le courage de sortir un peu de, on va dire, du confort du smartphone traditionnel qui se ressemblent tous et essaie d'innover avec un produit qui réagit à la voix, bourré d'intelligence artificielle, etc., etc. Ce produit est enfin sorti et alors là, je vous dis pas. Les journalistes américains qui ont pu mettre la main dessus, c'est violent.
On parle de Marques, là ?
Ça marche pas, ouais. Ça sert à rien, c'est pas au point, enfin, un truc horrible, quoi.
Ouais.
Clément ?
Allez, ça part.
Ça part, on y va.
En fait, c'est pourquoi ça a marqué ?
Tu en as vu à Las Vegas ou pas ? T'avais des gens qui en avaient ou pas ?
Non, il n'est pas sorti. Et puis de toute façon, je vais te dire, enfin, on est typiquement.
Il y en avait au Mobile World Congress de Barcelone.
On est typiquement sur un truc. J'y crois comme produit de rupture un peu sexy pour une entreprise qui a d'autres choses à vendre. Là, comme ça, déjà, il y a deux trucs. Le premier, c'est il fait pas bien ce qu'il est censé faire. C'est-à-dire que des retours qu'on a, hein. Les temps de latence sont très longs. On vit dans un monde où tu peux pas te permettre d'avoir 10 secondes pour répondre à une requête. C'est impossible. Les gens sont habitués à un autre niveau de standing. Donc il y a déjà ce qui est censé faire et pas forcément bien fait. Le deuxième truc, c'est qu'en plus il y a quand même beaucoup de choses que fait un smartphone. Eux ils le présentent plutôt comme un ordinateur, peu importe, que fait un smartphone qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les notifications, c'est compliqué, ou qui fait mal. Tu peux pas avoir d'alarme, tu peux pas l'appairer à un téléphone, etc., etc. Donc en fait, le truc, c'est que t'as des innovations de rupture qui sont mal maîtrisées et t'as pas les basiques. Et en fait, il y a un mec qui s'appelle, qui est très connecté dans la Silicon Valley, qui s'appelle Arnaud Tiercelin, qui a fait un post LinkedIn aujourd'hui hyper intéressant pour expliquer que tous les gens aujourd'hui qui disaient oui, mais en fait, l'iPhone, il était pas parfait quand il est sorti. Mais l'iPhone, il faisait déjà très bien ce que faisait la génération de produits qui était censée remplacer. Et en plus, il avait des innovations en plus. Là, ça a l'air d'être quand même très, très mal barré.
Enfin, le premier iPhone n'avait pas la 3G non plus, donc on était.
Oui, mais il avait quand même l'écran.
Il avait tout ce qu'il
avait pas la 3G parce qu'il avait pas de 3G aux US. Ouais. Quand tu reviens en fait à l'époque, on est en 2007 en France, on avait la 3G, mais on était en avance. C'était à l'époque où les réseaux américains, je sais pas si tu te souviens, mais tu as dû aller tout comme moi et Fred dans ces grands salons. Les réseaux étaient pas excellents et tout le monde tournait à l'edge en 2007. Mmh. Alors que nous, on était passé en 3G. C'est pour ça qu'ils avaient sorti le téléphone Edge en se disant voilà, ça suffit pour le marché américain.
Et beaucoup d'autres téléphones n'étaient pas en 3G non plus.
Et beaucoup d'autres téléphones étaient. C'est... Mais bon, le modèle d'après était passé en 3G, là, ça avait changé la donne.
Pour revenir, je suis d'accord, c'est vrai que les retours disent le produit en tant que tel est plutôt pas mal, le potentiel est là, il y a des choses qui ne marchent pas, et alors, Human va dire que ça va arriver, que c'est une bêta, c'est difficile de vendre une bêta à $700 par mois, plus de $24 par. Il faut dire, il n'y a pas de téléphone, donc il faut payer $24 par mois d'abonnement téléphone, enfin d'abonnement.
En fait, il faut une carte SIM pour mobile. De la data. En fait.
Exactement.
C'est ça. Hein.
Donc $24 par mois, ce qui a fait beaucoup, en fait. Ouais. Donc je pense
$700 plus
$24. C'est une première version qui va pas avoir beaucoup de succès. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont levé $230 millions. Donc même si ça se vend pas, ils vont peut-être pouvoir lancer une deuxième génération. Après, l'idée, c'est est-ce que le potentiel de remplacer un smartphone ou pas, ça à voir en fait. Et pour l'instant, ils n'ont pas démontré que c'était capable.
Oui, moi c'est mon problème. Je ne vois pas à qui ce produit sert. Admettons qu'il soit bien fini, qu'il réponde à la seconde aux questions qu'on lui pose. Qu'il chauffe pas, parce qu'il chauffe en plus. Hein, c'est ce que j'ai cru lire dans
les tests. Vous avez des options chaufferette quand t'as froid aux mains.
Oui, alors pour l'hiver ça peut être pas mal, mais là l'été va arriver, ça peut être un inconvénient. Donc voilà, c'est un produit très mal conçu. Et même s'il était parfaitement conçu, je ne vois pas à qui ça s'adresse.
C'est pour ça que c'est un produit d'appel cool.
Exactement. Un gadget Samsung, un gadget Apple, on vous propose ça, c'est connecté à votre smartphone et ça vous propose 2-3 services en plus. Mais un produit seul comme ça, c'était évident. Alors certes, tout le monde court après le smartphone du futur, qu'est-ce qui va remplacer le smartphone. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, pas ça. Ça peut proposer un petit... C'est une Apple Watch un peu, qui propose un petit truc en plus. Mais c'est tout. Enfin, moi, je pense que s'il y a un avenir, s'il y a un smartphone du futur, vraiment, ce dont je ne crois pas, je pense que le smartphone, c'est le form factor ultime pour accéder à de l'information dans sa poche. Mais je ne pense pas que ça, même bien conçu, voilà, $700.
Ouais. Alors c'est intéressant parce que les fondateurs de
Human
et iPin, voilà.
C'est étonnant qu'ils aient envoyé un produit aussi mal fini à la presse.
Ben je pense qu'ils avaient la pression aussi.
Il a été retardé, il faut bien le dire.
Il a été retardé de plusieurs semaines. Alors ils n'ont pas fait leur mea culpa vraiment. Ils disent que c'est la première version. Ils tablent sur une version 1.2 qui devrait sortir cet été. Alors c'est quoi ? C'est une mise à jour du produit ou c'est un nouvel hardware ? Donc tout ça, c'est une question. Mise à jour logicielle. Et ils disent voilà, vous faites partie d'une aventure. Enfin, ils la jouent cool. Bon, vous achetez un produit, on sait qu'il n'est pas sec, hein, mais vous inquiétez pas, on va essayer d'en faire.
C'est que ça, faut le dire avant. En fait, t'as pas deux fois l'opportunité de faire une bonne impression.
Enfin, c'est pas les premiers qui ont ressorti un produit qui n'était pas terminé.
C'est pas les premiers, mais tu vois, derrière, en fait, c'est leur. Ils ont pas d'autres gammes de produits qui ont déjà convaincu une communauté, qui ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, en fait, eux, ils avaient un vrai enjeu sur la première impression. Et tu vois, tu parlais des influenceurs américains. Il y a un influenceur américain qu'il faut connaître, qu'il faut convaincre quand tu lances un produit qui s'appelle Marques. Et tu vois, sur sa chaîne. Et d'habitude, c'est un mec qui est assez mesuré. Tu vois, en revanche, quand il clash, il clash. Il a détruit le truc. Oui, oui. Et en fait, je veux dire, c'est un mec, faut savoir que quand toutes les boîtes de hardware lancent un produit, c'est celui qu'elles draguent toutes. C'est-à-dire, bien c'est sûr. Des dizaines
c'est
de millions de vues sur ces vidéos.
En premier.
Exactement. Je veux dire, c'est le mec dont tu veux pas une review négative. Moi, je peux te dire que pour avoir mon frère qui bossait dans les téléphones chez Nothing, quand il leur envoyait la nouvelle version du téléphone,
ils, comme ça.
ils étaient en panique.
Tétanisés. Ouais.
Quand ils ont vu sa review, ils devaient le savoir, s'y attendre. Mmh. Mais n'empêche qu'ils se sont dit, ça y est, notre produit, il est mort. C'est ce qui vient de leur arriver, extrêmement difficile.
C'est pas bon.
Mais est-ce qu'il y a un produit tech aussi peu abouti, qui suscite autant de scepticisme, qui a fini par s'imposer progressivement avec des améliorations sur les générations suivantes?
Bonne question.
Personnellement, j'en ai aucun en tête. Mais
j'ai pas le souvenir.
Non.
Bon, écoutez, espérons. Est-ce que ça va sortir en France un jour, ce truc-là ?
Je crois que c'est pas prévu pour l'instant.
C'est pas prévu pour l'instant. Hein. Bon, on verra bien.
Dommage.
En tout cas, ils ont du courage. Ça, on peut pas leur enlever. Hein. Ils essaient de réinventer la roue et de sortir un nouveau produit qui va peut-être inspirer quelque chose de plus sec dans les mois ou les années qui viennent. On verra bien. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on reparte en Chine maintenant, du côté de Huawei qu'on a évoqué brièvement au tout début sur les ventes de smartphones. Il faut savoir que Huawei cartonne en Chine au niveau des smartphones, mais vend aussi plein de choses. Ils vendent des voitures, ils vendent même des PC. Et des PC sous processeur Intel, qui, rappelons-le, Jérôme, est une boîte américaine.
Alors, il faut revenir en arrière. 2020, Donald Trump place Huawei sur une liste noire, donc l'Entity List, qui l'empêche d'avoir des relations avec des entreprises américaines. Donc du jour au lendemain, il n'y a plus Android sur les Huawei, il n'y a plus de puces LG Qualcomm, voilà. Sauf que dans...
Et là, ça coupe tout.
Là, ça coupe tout, Huawei s'effondre, en tout cas sur les smartphones. Sauf que dans cette législation, il y a la possibilité d'avoir des dérogations. En 2020, Intel demande une dérogation pour vendre des CPU, donc des processeurs pour les ordinateurs de Huawei. L'administration Trump accepte parce que Intel, déjà les CPU, tout le monde, à l'époque, on s'en fiche un peu, très honnêtement, c'est pas le sujet du mouvement. Et puis Huawei sur les ordinateurs, c'est tout petit. Huawei vend un peu en Chine, ils ont 3% du marché en Chine à cette époque, donc on s'en fiche un peu. 4 ans plus tard, ben, les CPU, ça devient intéressant parce qu'il y a l'IA qui arrive et qu'aujourd'hui, il faut avoir des CPU qui permettent de faire tourner l'IA en local sur les ordinateurs. Intel en a un qui a été présenté en décembre dernier. Et Huawei l'a acheté et Huawei a présenté, donc c'était la semaine dernière, ce nouveau PC qui est capable de faire tourner de l'IA en local. C'est l'un des premiers à le faire aujourd'hui, de faire tourner de l'IA en local.
Oui, parce que Intel vient de mettre à jour ses processeurs. Et donc les relations sont plutôt bonnes entre Huawei et Intel, puisque Intel a donné en fait ses premières puces à Huawei, alors qu'il aurait pu les donner à Lenovo. Alors
que Dell a aussi.
HP les... Dell. Mais voilà, mais enfin, ils font partie de cette shortlist de privilégiés, quoi, de VIP.
Ouais. Non, mais en fait, à un moment, les Républicains, en effet, je veux dire, ils savent très bien, tout le monde le sait, les mecs qui débarquent en disant c'est dingue, on file des processeurs et tout, ça fait un peu Serge dans La Vérité si je mens, tu sais, quand il dit qu'est-ce que j'apprends, machin. Donc, tu débarques dans l'usine, là, je veux dire, c'est Actor Studio, ce truc. Après, moi, la question qui m'intéresse, c'est quand même le Huawei Comeback en ce moment, c'est l'expression qu'ils emploient tous en Chine, etc. Ils sont très fiers d'avoir une puce chinoise dans le téléphone, etc. Comment ça se fait qu'ils se fournissent chez Intel? En fait, on sait qu'ils ont encore un peu de retard. Il y avait un article du Nikkei en février au Japon qui disait leurs puces sont quasiment aussi bonnes que celles des Américains. Ils ont un problème d'échelle pour l'instant pour la production. Après, les Chinois, ils sont pas fous. Hein. Ils ont annoncé qu'en 2030, il fallait avoir réduire la dépendance à Intel et AMD.
Oui. Parce qu'en fait, même, je crois.
Ça commence 2020. Je crois que tu commences
entre 2027 et 2030,
c'est fini. T'as plus de puces de ces trucs-là. Donc, ils investissent. Moi, pour vous donner une anecdote, puis on va bientôt finir, mais je connais un mec qui rentre chez Huawei en 2020. Il présente tous les mecs qui sont recrutés cette semaine-là. Ils sont 100. Il y en a 80 qui étaient recrutés pour les puces. Ça fait longtemps qu'ils bossent sur le sujet. C'est une étape. Pour eux, dans moins de 10 ans, il n'y a plus une puce étrangère à la place des puces chinoises dans ce type de produit.
Oui. C'est leur souveraineté, en quelque sorte.
Et juste, on parlait sécurité et indépendance de production.
C'est ça, les deux. C'est ça.
90% du Mate 60 Pro a des composants chinois, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, en fait. Huawei a ouvert un centre de R&D à Shanghai, où ils recrutent chez TSMC, chez ASML. Ils ont conçu des logiciels, donc des EDA, ce qui permet de concevoir les puces qu'avant, ils se fournissaient chez ces Américains. Ils vont faire des machines de lithographie qui sont aujourd'hui néerlandaises. Donc voilà, donc il y a une vraie ambition de pouvoir s'affranchir des États-Unis et de l'Europe.
Fred.
Non, mais finalement, ce qui les fera s'affranchir des États-Unis et de l'Europe, c'est leur capacité à innover et à produire, à concevoir des puces équivalentes, quoi. Voilà, plus que des interdictions. Alors certes, on voit que finalement, ces interdictions n'ont pas cassé les jambes, mais les ont au contraire motivés à développer leur propre puce, comme on l'a montré Huawei avec sa puce gravée en 7 nanomètres en début d'année.
Ça les a bien ralentis sur certains marchés.
Oui, ça les a ralentis.
En effet, Huawei n'est pas mort.
Voilà.
Oui, mais ils se sont retrouvés au pied du mur.
Ils se sont pas effondrés, parce que le but de l'administration des Américains, c'est de dire on va casser la tech chinoise. Bon, mais ça n'a pas été le cas.
Ouais. Et à noter que ces PC Intel sortent avec un OS chinois, j'imagine. Mais la petite anecdote croustillante, c'est qu'ils peuvent très bien installer Windows dessus, puisque en fait Microsoft ne fait pas partie de ces boîtes qui sont bannies. Ils ont une dérogation, ce qui fait qu'on pourrait très bien voir arriver en France un PC Huawei avec un Core i9 dernière génération avec de l'intelligence artificielle tournant sous Windows 11. C'est ça qui est assez amusant finalement. Merci beaucoup à tous les trois, c'était super et comme toujours passionnant. Merci beaucoup Clément. À très vite.
Avec plaisir.
Clément David, donc le PDG de Paddock, à tes côtés, Frédéric Bianchi. Merci Fred.
Merci à toi.
Journaliste à BFM Business. Et merci à Jérôme Marin, merci, avec sa newsletter Café Tech.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Et vous restez avec nous. On a encore une demi-heure à passer ensemble avec au sommaire de Tech & Co. Tiens, ben voilà, à J-100 des JO et de Paris 2024, on va parler de tech avec, tiens, une start-up qui a tout misé sur la box connectée. On va tout vous expliquer dans quelques instants. Et puis, tiens, une initiative intéressante aussi menée par Ava Play, une levée de fonds pour aider l'Ukraine sur Fortnite. Comment ? Nous aurons Fabrice Plazol, qui est le directeur de la création Avasplay, qui va nous raconter cette initiative plutôt intéressante. Tout ça revient dans un instant, juste après Léa Benahim qui nous rejoint pour le Tech Flash comme chaque soir. Merci d'être là et à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Et dans un instant, on va évoquer un sujet passionnant, les Jeux Olympiques Paris 2024 et la tech. Mais dans l'immédiat, 21h03 sur BFM Business, comme chaque soir, elle est avec nous. En quelques minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech, c'est Léa Benahim. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et pour commencer, les temps sont durs pour Apple qui fait face à la pire crise de l'iPhone depuis le Covid. Les ventes ont chuté de 10% depuis le 1er janvier. Une baisse qui propulse Samsung à la première place du marché, portée par les ventes du Galaxy S24. Pour la suite du podium, Xiaomi garde la troisième place. Et à égalité avec Oppo, c'est Transsion, inconnu chez nous. Le constructeur chinois doit sa réussite à l'Afrique, où il détient plus de 40% du marché. Et pendant ce temps, Tim Cook a atterri ce matin à Hanoï au Vietnam. Le PDG d'Apple va faire le tour de ses sous-traitants. Le Vietnam est un pays clé pour Apple qui est déjà très présent, surtout depuis que l'administration Biden cherche à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine. Et pour ce faire, Tim Cook a annoncé vouloir augmenter ses investissements dans le pays. Des investissements déjà importants. Depuis 2019, Apple a dépensé en tout près de 16 milliards de dollars au Vietnam. Toujours chez les géants de la tech, Tesla pourrait licencier plus de 10% de ses effectifs selon un mail envoyé en interne par Elon Musk. Cela représente près de 14 000 emplois. Et pour faire rentrer de l'argent frais rapidement, la marque a décidé de faire des sacrifices sur ses marges. Elle vient de diviser par deux le prix de son abonnement mensuel pour la conduite autonome. De 200 $, il passe à 100 $. Une promotion à la hauteur de la mauvaise forme financière de l'entreprise. Pour la première fois depuis 2020, Tesla a vu ses ventes baisser au premier trimestre 2024. Dans l'actualité aussi, après Londres et Dublin, OpenAI ouvre au Japon. L'entreprise de Sam Altman a choisi Tokyo pour son premier bureau en Asie. Et pour l'occasion, un modèle de GPT-4 sort aujourd'hui en japonais. Le choix du pays n'est pas un hasard. Le Japon est un acteur majeur de l'IA et un pionnier dans l'adoption de robots humanoïdes. D'ailleurs, OpenAI a déjà des clients importants sur place comme Rakuten et Toyota. Et pour diriger cette filiale, Sam Altman a choisi un ancien d'AWS. Et enfin, on vous propose un petit retour en arrière dans De quoi je me mêle, avec l'histoire du casque VR, une chronique nostalgique à retrouver en replay et en podcast sur le site BFM Business et sur la page YouTube de Tech & Co. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
On va commencer aux années 50, à la fin des années 50.
Waouh, t'es remonté loin. Hein.
Donc ça remonte assez loin. Alors on considère que c'est Morton Elling qui était un inventeur et réalisateur américain. On considère que c'est le père de la VR. Il avait inventé le Sensorama. C'est une machine dans laquelle tu mettais la tête à l'intérieur et ça simulait tous les sens. Donc ça stimulait plutôt tous les sens, toutes les odeurs, la vue évidemment, mais aussi le vent. Donc t'avais un ventilateur qui simulait le vent dans les cheveux. Il y avait des vibrations. Moi ça m'a fait penser au 4DX qu'on a dans les salles de cinéma aujourd'hui.
Exactement.
Ouais. Voilà, donc ce serait lui, le père. En revanche, il faut attendre une bonne dizaine d'années pour avoir le premier vrai casque de réalité virtuelle, mais qui restera un prototype. C'est l'Ultimate Display. C'est Evan Sutherland, qui est ingénieur, qui l'a inventé. Là, pour le coup, tu avais des capteurs de mouvement qui permettaient de faire bouger l'image en fonction du mouvement de la tête, du mouvement de l'utilisateur. Et on l'appelait aussi épée de Damoclès parce qu'il y avait un long et lourd câble qui permettait de le relier. Voilà, on voit des images pour ceux qui ont la vidéo.
Oh mon Dieu !
Voilà.
Incroyable.
Donc là, c'est la réalité augmentée.
Et le gars, on a l'impression qu'il a une antenne 4G sur la tête, quoi.
C'est un petit peu ça.
C'est fou.
Ça. Mais c'est ça. Ça, c'est le premier casque de réalité virtuelle. On est plus dans la réalité augmentée parce que c'est pas complètement occulté. Mm-hmm. On voit à travers le casque. Donc c'est plus dans ce registre-là. Mais en revanche, il a fallu attendre très longtemps avant de voir des applications grand public. On a failli en avoir un sous la marque Sega.
Voilà, de quoi je m'appelle votre rendez-vous tech du week-end, qui est toujours d'actualité, hein, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Tech & Co, sur l'appli RMC BFM Play, sur l'appli BFM Business et sur la chaîne YouTube aussi. Allez, on va parler sport et tech maintenant avec mon invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
On va découvrir dans un instant avec Olivier Huc, Hypercute. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur et directeur général de cette box connectée. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on revienne en fait à cette actu de J-100 des JO. Et si ces algorithmes étaient la clé de nos futures médailles d'or aux JO, vous savez, l'intelligence artificielle est en train de devenir une arme cruciale dans la recherche de performance. D'ailleurs, elle est de plus en plus présente dans la préparation des athlètes. On écoute les explications d'Anthony Morel. C'était ce matin dans Good Morning Business. Et on revient avec mon invité juste après.
Oui, l'IA est un outil de plus en plus important dans l'arsenal des entraîneurs et des athlètes. Alors, il y a effectivement l'utilisation de l'IA, des algorithmes couplés avec du big data. Dans les sports collectifs, on en a souvent parlé, des joueurs de foot, on va avoir des petits capteurs, on va analyser leurs accélérations, leurs respirations, leur rythme cardiaque. On va optimiser l'entraînement à partir de ça. Très bien. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à utiliser le computer vision, la vision par ordinateur, c'est-à-dire des algorithmes qui vont être capables, de la même manière qu'un entraîneur humain, de regarder et de décortiquer des vidéos de matchs ou de combats, ça dépend des sports évidemment, donc des centaines et des centaines d'heures, c'est l'avantage de l'intelligence artificielle, pour, par exemple, détecter des failles potentielles chez l'adversaire dans sa stratégie, celui que je dois affronter ce soir. Ça, c'est utilisé dans les sports collectifs, c'est aussi utilisé dans les sports individuels. On a des outils, par exemple, pour le tennis, où on va pouvoir analyser de manière extrêmement précise la posture des joueurs, la trajectoire de leur balle, et on va pouvoir détecter les stratégies des uns et des autres. Pour la boxe aussi, un outil qui s'appelle Deep Strike, qui va analyser pendant un combat ou pendant un sparring, eh bien la posture, les pieds, l'agressivité, la pression des combattants, là encore pour pouvoir optimiser chacun de leurs mouvements. C'est une sorte d'assistant coach, si l'on peut dire, mais à l'œil duquel rien n'échappe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces outils, qui étaient réservés aux professionnels évidemment parce que ça coûte très très cher, eh bien sont désormais disponibles sous forme d'applications sur un smartphone.
Tout le monde peut les utiliser.
Et oui, et donc ça permet aussi au niveau moyen d'augmenter et potentiellement de faire monter des champions.
Voilà, la révolution de la sporttech, elle est en marche, cette révolution, et elle va être augmentée à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Rebonsoir Olivier, merci d'être là. Merci. Cofondateur et directeur général donc d'Hypercute, start-up toulousaine. Et tiens, c'est rigolo parce que Anthony parlait de boxe, vous êtes justement dans la boxe.
Absolument.
C'est intéressant votre histoire parce que votre idée est née lors d'une discussion avec un vendeur de matériel de sport, parce que vous-même, vous faites de la boxe. Et vous vous êtes dit... C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de technologie dans ce sport de la boxe.
Absolument.
Et vous avez, avec vos petits bras musclés, développé Hypercute.
Oui, absolument. Je l'ai développé avec mon épouse, Marine, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Lorsque, effectivement, on fait de la boxe et qu'on tape dans le sac, on a besoin de data, on a besoin, je dirais, de retour. Et c'est vrai qu'un sac, c'est inerte. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de faire quelque chose qui allait nous donner de la data pour pouvoir après faire de l'analyse dans le temps sur les performances qu'on fait sur le sac.
Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tech dans le foot, le tennis, etc. La boxe était un peu le parent pauvre, non, de la tech.
Oui, absolument. Et puis, c'est surtout lié à des problématiques techniques. Déjà, le sac, c'est volumineux, c'est lourd. Quand on y met de la techno à l'intérieur, c'est fragile, donc
oui,
quelque part...
Il faut de la tech, mais résistante, en fait, au coup.
Éprouvé, absolument. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas partis sur un sac. Nous avons eu l'idée de développer un sac, mais beaucoup trop volumineux, trop contraignant. Nous avons développé une housse, ce qui fait qu'on met une couche par-dessus,
ouais.
Et en fait, on transforme un sac traditionnel en sac interactif. Et c'est là qu'on le rend, je dirais, intelligent, où on va récupérer de la donnée avec beaucoup d'exercices, de programmes et autres.
On va rentrer dans les détails de comment ça marche dans un instant, mais personne n'a eu l'idée de sortir, par exemple, des gants de boxe connectés.
Alors,
parce qu'on pourrait imaginer que, effectivement, si le sac de frappe est connecté, le gant pourrait l'être tout autant.
Absolument. Et d'ailleurs, les premières approches technologiques, je dirais, autour de la boxe, sont des capteurs, des trackers qu'on met dans les gants, qui permettent d'analyser les trajectoires, les accélérations, etc.
D'accord, ça existe.
Ça existe déjà depuis un petit moment. Ça a été un petit peu poussif au départ parce que la techno n'était pas trop au point. Il y a quelques boîtes qui sont arrivées à le mettre au point et ça marche plutôt bien. Il y a un inconvénient à ce système, c'est que ça n'est pas interactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour du sac.
En fait, c'est plus un monitoring de ce que vous faites.
Exactement.
Ça va enregistrer votre session. Exactement. Et après, vous la restituez sur votre iPhone.
Exactement.
Il n'y a pas de ludique.
Non, ce n'est pas ludique.
C'est ça.
Et en fait, vous ne pilotez pas vos gants. Vous allez mesurer une trajectoire.
Oui,
mais
sûr.
Voilà. Alors que sur notre produit, ou en tout cas notre approche technique, on va dire, l'idée c'est d'avoir des capteurs sur lesquels on va pouvoir puncher avec des LED et qui vont mesurer des pressions, des vitesses, des réactivités. Et donc on est sur une approche complètement différente, mais beaucoup plus, je dirais, aboutie.
Alors, donc, c'est une housse qu'on va chausser, en fait, sur un sac de frappe.
Absolument.
OK, ça s'adapte sur n'importe quel sac de frappe.
On a 10...
Ça a été conçu pour ça?
Oui, on a essayé de couvrir un maximum de sacs les plus, connus.
D'accord.
Voilà, on couvre à peu près 80-85% des sacs du marché.
D'accord.
Avec une douzaine de références de taille pour pouvoir, justement, s'adapter à toutes les situations.
Alors, on le voit là sur les images, hein, c'est vous-même qui tapez là, non?
Oui, absolument.
Vous avez une bonne frappe quand même. Ça se voit tout de suite qu'il y a quand même du métier derrière tout ça.
Oui,
donc cette housse, on la met, elle est autonome, elle est connectée en fait. Elle est alimentée, il y a une batterie, il y a des capteurs.
Alors les capteurs sont des capteurs souples, il y en a 8. Ils sont tous équipés d'une LED, ce sont des LED multicolores. Et il y a une carte électronique qui en fait va alimenter tout ça, qui va récupérer la donnée et qui va l'envoyer à une application mobile.
C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, hein, donc je chausse cette housse, je mets en route, je suis en phase d'entraînement, et là d'un coup je vais avoir des LED qui s'allument sur le sac, il va falloir que je tape.
En fait,
au bon endroit, au bon moment.
Exactement. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs types d'entraînement.
Les scénarios, on va dire.
Voilà, c'est ça. Vous avez toute librairie d'exercices. Vous connectez. Quand vous êtes connecté, vous choisissez le mode que vous voulez. Soit le mode libre, où là, vous allez puncher où vous voulez. Soit le mode
guidé. Et là, ça va enregistrer, en fait, ce que vous avez fait.
Les data, exactement.
D'accord.
Et par contre, si vous voulez un mode guidé, vous allez choisir l'exercice que vous voulez dans la librairie ou dans les entraînements, et vous allez lancer les exercices qui vous intéressent, et vous allez simplement suivre les cibles. Alors, il y a certains exercices où on est en mode réactivité, donc on va avoir des schémas random, et donc on va travailler la réactivité, je dirais, sur du boxeur, et c'est là que la data commence à devenir intéressante.
D'accord.
On va travailler des combos, c'est-à-dire des enchaînements, et on va identifier les endroits où on a été plus faible, moins régulier, etc. etc.
Voilà, donc c'est intéressant parce que vous mesurez 4 métriques, vous l'avez dit tout à l'heure, la force, la vitesse, la réactivité, la volumétrie.
Oui, alors je dis la volumétrie, pardon.
Allez-y, je vous en prie.
Pardon. Allez-y. La volumétrie, c'est la surface qu'on exploite sur le sac.
D'accord.
Voilà, si je voulais donner.
Vous en êtes où aujourd'hui? Demain, je suis une salle de sport, j'ai un sac de frappe, je peux acheter Hypercut?
Vous allez sur hypercut.shop.
Et ça coûte combien?
Et ça coûte 790 € hors taxes pour les professionnels.
D'accord.
Uniquement.
Ah oui, d'accord. Donc, ce n'est pas pour les particuliers.
Ce n'est pas pour les particuliers. Nous sommes dans un...
Après, cela dit, est-ce qu'un particulier a forcément un sac de frappe chez lui? Il y a marché,
oui,
peut-être?
Il y en a certains, en effet. Vous avez, par exemple, des mordus de boxe. Vous avez des professionnels.
Oui, qui s'entraînent chez eux.
Qui s'entraînent chez eux, absolument.
Oui. Mais après, rien ne leur empêche d'investir 790 € et acheter
si ça les intéresse, bien ils sûr. Seront toujours les bienvenus, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on en est donc à la phase de commercialisation. Ça fait 8 mois qu'on commercialise. Et donc, on a commencé depuis le mois de janvier à commercialiser sur l'Europe.
Ok. Voilà. Et le fait de donner des coups de poing à longueur de journée sur de la tech, ça tient le coup ou ça explose en vol? Non, parce que c'est ce que vous expliquiez au début. C'est une vraie problématique. Hein.
Alors,
je tape sur mon smartphone, au bout d'un moment, il ne va plus marcher.
Oui, mais il n'est pas fait pour ça.
Il n'est pas fait pour ça.
Nous avons fait en sorte de développer notre technologie de manière à ce qu'elle soit la plus robuste possible.
D'accord.
Donc nous avons de très grosses frappes qui sont venues tester les capteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube. Il y a une petite vidéo avec une batte de baseball. Je vous invite à aller voir. Et vous verrez que c'est très très robuste.
Vous serez aux Jeux Olympiques, hein, pour terminer, donc au stade Roland-Garros. Il y a l'Arena Paris Nord de Villepinte où vous ferez des démos, ça?
Absolument.
Pour le public qui est là.
La Fédération Française de Boxe nous a invités. Nous sommes aujourd'hui fournisseur officiel de la Fédération Française de Boxe. Cette fédération nous a proposé de venir animer des stands à l'entrée des stades olympiques.
D'accord.
De manière à ce qu'on puisse accueillir le public et et leur faire toucher, je dirais, la technologie que les Français savent faire.
Merci beaucoup, Olivier. Olivier Huc, donc, cofondateur et directeur général d'Hypercute. Merci beaucoup et bon retour à Toulouse.
Merci.
Merci d'être passé par le plateau Tech & Co. Tout de suite, direction le site Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Et Kesso Diallo nous a rejoint. Salut Kesso.
Salut François.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et ce soir, Kesso, tu vas nous parler de l'iPhone qui pourrait proposer des fonctions d'intelligence artificielle gérées en local avec iOS 18, dis donc.
Et oui, et on sait qu'iOS 18 sera dévoilé en juin lors de la WWDC d'Apple. Mmh. Mais on sait peu de choses sur cette mise à jour qu'Apple présente comme la plus grande mise à jour de l'iPhone. Si Apple reste mystérieux, on peut au moins compter sur les rumeurs. Et la dernière, elle vient de Bloomberg, qui est généralement bien informée. Selon Bloomberg, on aurait des fonctions d'IA qui seraient gérées directement en local sur l'iPhone, donc on n'aurait pas besoin d'Internet pour les utiliser.
Alors, mais comment Apple arriverait à gérer cette IA en local sur l'iPhone directement ?
Alors déjà, il faut rappeler qu'Apple a pris du retard sur ses projets d'IA générative, donc l'entreprise sera obligée de s'appuyer sur une autre qui a été plus rapide qu'elle. Mmh. Ça pourrait être l'IA Gemini de Google qui serait intégrée sur iOS. Et là, on a un problème de puissance. Parce que selon Google, il faut 12 gigas de RAM pour que son IA fonctionne correctement. Or, sur l'iPhone 15, on a seulement 6 gigas de RAM. Et sur l'iPhone 15 Pro, on a seulement 8 gigas de RAM.
Ah oui, donc ça ne suffit pas. Mais alors comment Apple va faire pour régler ce problème, Kesso ?
Alors potentiellement, cette gestion en local, elle se ferait à l'aide de la nouvelle puce d'Apple qui serait présente sur les prochains iPhones, donc aucun des iPhones qu'on a actuellement sur le marché. D'ailleurs, l'objectif d'Apple, ce ne serait pas de tout faire fonctionner hors ligne, mais d'étendre ses capacités au cloud à partir, dans les mois suivants, dans les mois suivants le lancement d'iOS 18, à partir de septembre donc.
D'accord, et on attend juin hein, pour voir un peu comment tout ça va prendre forme, puisque tu le disais tout à l'heure au tout début, ce sera lors de la WWDC.
Oui, et d'ailleurs Apple a attendu au tournant à ce sujet, parce qu'il est en retard par rapport à Google et Samsung, qui ont déployé des fonctionnalités depuis plusieurs mois, donc on attend avec impatience.
C'est vrai, on en parlait tout à l'heure au début de cette Tech & Co, trou d'air hein, pour Apple depuis quelques semaines. Merci beaucoup Kesso Diallo, et si vous voulez retrouver l'article de Kesso, eh bien c'est tout simplement sur le site de Tech & Co. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Bonsoir Fabrice Plazol. Bonsoir, merci d'être là. Bienvenue sur le plateau de Tech & Co, la quotidienne. On va parler avec vous de cette levée de fonds pour aider l'Ukraine sur Fortnite. Geste sympathique et en plus nécessaire. Vous êtes directeur de la création d'Avasplay.
Exactement.
Expliquez-moi votre métier, parce que moi je suis toujours fasciné par les créas en pub. Vous êtes un créa, comme on dit ?
Je suis un créa, comme on dit, avec tous les préjugés qu'il y a autour d'un créa.
Non, mais c'est un métier, franchement...
c'est un métier passionnant, déjà.
Fascinant.
Je suis ravi de me lever le matin pour aller faire ce métier.
Vous savez, toutes les pubs qu'on voit, qu'elles soient écrites, qu'elles soient à la télé, à la radio, ben voilà, il faut des créatifs derrière. Et celles dont on retient, en fait, le message, c'est grâce au créa, en fait.
Exactement. Et pas que. C'est un travail collectif, mais effectivement, il y a un vrai travail créatif. Moi, je travaille chez Avasplay, moi, qui est une agence du groupe Avas, qui est une agence qui est spécialisée, on va dire, dans la création d'expériences, d'histoires, de contenu pour connecter des marques et des gens, des fans, nous on appelle ça, par le biais de leur passion. Et c'est des endroits en fait où des communautés se rejoignent. Donc ça peut être du sport, ça peut être du gaming, de la musique, des médias. On peut être fan d'une émission de télé, de Tech & Co par exemple. Moi, mon métier, c'est de diriger une équipe de 18 créatifs qui réfléchissent à ça, qui proposent des idées. Et puis derrière,
créer l'affect, en fait.
Exactement. Créer en fait quelque chose de mémorable, quelque chose qui permet d'engager les gens, de créer de la conversation, de raconter des histoires. Et on le fait pour des marques, on le fait pour des grandes marques, on le fait pour Orange, on le fait pour Accor, on le fait pour LVMH, mais on le fait aussi pour des associations. Et en l'occurrence, le projet dont on va parler et dont on voit les images derrière vous, c'est pour United24, qui est une plateforme de, on va dire, c'est une plateforme initiée par le président Zelensky en Ukraine, qui est censée rassembler en fait un petit peu toutes les initiatives pour lever des fonds pour aider l'Ukraine. Et donc, on a travaillé avec ces gens-là pour créer une expérience qui est unique sur Fortnite, où le temps passé par les joueurs sur cette map Fortnite qui représente la place Maïdan, la fameuse, à Kiev, est transformé en argent.
Oui, parce que il faut savoir que Fortnite, c'est pas qu'un jeu, hein, c'est aussi un terrain justement pour les créas qui est incroyable. Enfin, il se passe pas un jour sans qu'il y ait pas une expérimentation faite sur Fortnite. Ouais. Hein, des concerts de stars, de la pop. Enfin, il y a des campagnes de com et de médiatisation qui sont faites. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez cet outil qui est fabuleux, hein, Fortnite, pour inciter les joueurs à gagner de l'argent pour l'Ukraine, c'est ça ?
C'est ça. En fait, Fortnite, c'était un jeu au début, mais c'est plus un jeu aujourd'hui.
Non.
Fortnite, c'est un réseau social.
C'est un univers.
C'est un univers.
C'est carrément un Internet, quasi.
C'est un monde, en tout cas, dans lequel les gens se retrouvent et où ils vivent des expériences. Et en fait, ça a été encore plus accéléré avec l'arrivée d'Unreal Engine et le fait qu'on puisse développer des univers créatifs. Et en l'occurrence, avant, on jouait sur quelque chose qui était défini par l'éditeur, par Epic. Et là, maintenant, on peut créer ces univers-là. Et en fait, Fortnite, c'est comme YouTube. Ils ont besoin, en fait, qu'il y ait des nouvelles personnes qui créent du contenu, etc. Donc, ils monétisent. Et donc, si moi, je crée en fait une map, une île sur Fortnite, qu'elle a du succès, que les gens viennent, qu'ils reviennent, qu'ils y passent du temps, Fortnite me verse de l'argent à la fin du mois.
Mais c'est un peu comme si vous étiez influenceur sur YouTube.
Exactement.
Quoi.
Et en fait, nous,
parce qu'il y a des annonceurs qui s'affichent aussi, c'est ça ?
Alors,
comment ça se passe ? Comment la pub ? Comment ils vont gagner de l'argent
Bah, ils gagnent de l'argent en fait avec les achats faits par les joueurs in-game.
Voilà,
c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui est sur un modèle où pour améliorer skin, son apparence, on dépense de l'argent, on dépense des V-Bucks, mais les V-Bucks derrière.
Il y a de la pub aussi, non, sur Fortnite ?
Il n'y a pas de pub directement sur Fortnite. Après, c'est beaucoup sur le modèle du free-to-play, mais ensuite on paye pour améliorer son avatar.
Excusez-moi, je vous coupe, parce que c'est intéressant. Epic ne veut pas polluer Fortnite avec de la publicité,
non.
Parce que j'imagine que les annonceurs dérouleraient le tapis rouge pour être sur Fortnite.
Mais ça reste un jeu, et on sait à quel point les gamers, quand on rentre dans leur univers de jeu,
il faut pas trop les énerver.
Sans couture. Si on arrive avec nos gros sabots, on n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose, nous, on le maîtrise sur le bout des doigts chez Avasplay, c'est quelque chose qu'on fait pour les marques aussi, donc on rentre avec des influenceurs, des univers. Et là, en fait, on a détourné finalement ce système-là, et on s'est dit, si Fortnite monétise et donne de l'argent à des influenceurs, et nous, on va créer notre map et on va faire en sorte que les gens viennent. Et donc, forcément, ça va lever de l'argent et ça va permettre d'aider l'Ukraine. Et ces fonds-là, on les destine à la reconstruction d'un hôpital dans la région de Mykolaïv.
Mais c'est une super initiative. C'est-à-dire qu'aucune marque s'est associée à ce projet en sous-main, ou est-ce que vous vous êtes dit on va développer tout ça tout seul parce qu'on a envie d'aider l'Ukraine ?
On n'a pas de marque. Ouais, l'histoire en fait, c'est que nous on fait partie d'un réseau Avas, on a des antennes dans tous les pays,
ouais.
Et on a rencontré il y a un an à peu près maintenant Natalia Morozova, qui est la patronne de Avas en Ukraine et qui nous a raconté son quotidien dans un pays en guerre, et c'est assez perturbant. Enfin, on n'a pas
pas loin d'ici.
C'est des gens avec qui on avait déjà travaillé, avec qui on a l'habitude de faire des projets. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on les aide, qu'il fallait qu'on fasse un truc ensemble. C'est bien comme ça. Et donc, eux, ils connaissent très bien United 24, et c'est comme ça qu'ensemble, on a essayé de le faire. Donc, nous, on n'a pas associé de marque. Après, il y a des marques qui soutiennent United 24 de manière globale. Mais nous, ça a été vraiment un travail collectif de tout le groupe Avas qui a permis, en fait, de développer ça.
C'est un succès ?
C'est un succès. Ça fait une dizaine de jours qu'on a lancé, donc c'est tout frais. Merci encore de nous donner l'opportunité d'en parler. On a 12 000 joueurs aujourd'hui qui ont foulé cette place Maïden virtuelle de plusieurs dizaines de pays différents. Beaucoup d'Ukrainiens en exil aussi. Il y a une vraie diaspora ukrainienne qui s'en parle, qui vient partager sur les réseaux sociaux des expériences. Et les gens surtout se sont saisis de cette map. Ils n'ont pas juste passé du temps. Il y a eu des concerts qui se sont organisés de manière complètement impromptue. Il y a eu des manifestation de soutien à la paix, donc oui, c'est une vraie réussite aujourd'hui.
Eh bien, bravo. On peut parler d'argent ou pas, ou c'est trop tôt ?
On peut parler d'argent, on sait que ça démarre bien, mais on n'a pas de chiffres aujourd'hui, puisque on a lancé il y a 10 jours,
objectif,
on sera payé en fin de mois. On n'a pas d'objectif, on sait qu'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour reconstruire cet hôpital, donc tout ce qu'on pourra en fait apporter sera bénéfique,
sera bon à prendre,
on n'a pas d'objectif concret.
Bravo pour cette initiative.
Merci beaucoup.
Voilà. Comme quoi, la créa, ça sert évidemment aux marques, qui font appel à vos services, mais aussi pour des causes un petit peu plus philanthropiques.
Et ça nous permet aussi de donner du sens au travail des créatifs, parce que parfois, vous l'avez dit au début, un peu sur le ton de l'humour, mais parfois, on peut aussi faire, c'est de la com, on se dit que c'est peut-être pas forcément utile. En faisant des choses comme ça, on arrive aussi à se sentir utile et à transformer les choses.
Mais je trouve que c'est très utile ce que vous faites, parce que, en fait, il y a des publicités qu'on n'oublie jamais, et c'est grâce, justement, à la créativité en fait des gens comme vous qui fabriquez tout ça.
Et n'oubliez pas The Donation Map, vous le cherchez dans Fortnite et vous pourrez y jouer dès ce soir.
Et peut-être bientôt sur iPhone, le retour en plus.
Ça dépend.
Voilà,
peut-être, on ne sait pas, on espère.
Qui se bat avec Apple sur ce
Exactement.
Sujet. Merci beaucoup Fabrice.
Merci.
Fabrice Plazol, donc directeur de la création d'Avasplay pour ce jeu sur Fortnite. Et bien voilà, ce Tech & Co, la quotidienne est terminée. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Rendez-vous bien sûr demain mardi, 20h, 21h30, radio, télé, et puis les replays et les podcasts aussi qui vous attendent. À demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.